Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné et aujourd'hui, je suis très heureux de vous offrir une nouvelle discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé. On a plusieurs sujets assez intéressants qu'on va couvrir dans les 20-30 prochaines minutes ensemble. On commence le podcast avec le fameux concept du long-term funder. C'est un concept que je me suis permis d'analyser un petit peu plus récemment parce que on dirait que pendant les 5, 10, 15 dernières années, il y avait une certaine vague, un engouement autour de la création d'entreprises très rapidement et ultimement de vendre cette même organisation-là pour toucher un montant intéressant au moment de la sortie. Et quand on analyse également, il y a vraiment une deuxième manière qui a été mise en place dans les 10, 20, 30 dernières années pour gérer des entreprises, c'est de bâtir son entreprise, la faire grandir et la garder pendant excessivement longtemps. Et je m'en suis aperçu en ayant fait beaucoup de podcasts récemment avec des gens qui dirigent leur organisation depuis 10, 15, 20 ans. Et on s'aperçoit que ces mêmes entrepreneurs-là arrivent à bâtir des entreprises qui font beaucoup de croissance, du 30, 40, 50 % par année, même la profitabilité. Et ils sont capables également de garder leur équité au complet simplement parce qu'ils ont une vision un peu plus long terme qu'une croissance à tout prix qui pourrait se dérouler dans les 2, 3, 4 prochaines années. Donc, j'explique pendant une dizaine de minutes le fameux concept du long-term funder. On discute, Jonathan et moi, des bons coups, des avantages, des inconvénients également de cette approche. Par la suite, on fait un petit tour des nouvelles. Où est-ce qu'on parle encore d'intelligence artificielle avec Anthropic, les anciens de chez OpenAI qui ont lancé cette organisation-là, Anthropic, qui a l'intelligence artificielle qui se nomme Claude, qui théoriquement aurait la plus grosse intelligence artificielle, la plus forte sur le marché. Récemment, ils ont eu une valorisation de leur entreprise à 18 milliards de dollars. On couvre le sujet brièvement. Également, on parle de Norfolk, une entreprise américaine où il y a eu un très, très gros déraillement de train dans la dernière année avec leur propre train dans leur entreprise. Et le président de l'entreprise a été capable d'avoir une augmentation tout de même de 37 % de son boni annuel, de son salaire, pendant que l'entreprise a vécu littéralement un calvaire pendant l'année au complet. On discute un petit peu des pour et des contre d'avoir des augmentations autant significatives dans des entreprises. Et on fait également un tour de d'autres nouvelles en rafale. J'espère que vous allez aimer les 20 prochaines minutes. Et comme à chaque semaine, je vous demande si vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Ça va nous faire énormément de bien. Ça va nous aider à faire connaître le podcast au maximum de gens possible. Donc, ce serait très apprécié si vous pouviez faire ce petit acte de vous abonner à nos podcasts. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires encore aujourd'hui avec notre fameux Jonathan Léveillé. On a des nouvelles, on a des points à discuter avec vous aujourd'hui, mais je le répète pour les gens qui sont avec nous sur le podcast, il y a un petit lien dans les notes de l'épisode qui vous pose quelques questions concernant l'événement présentiel qu'on va organiser à la fin mai prochain au centre-ville de Montréal. Donc, si vous pouviez simplement les remplir à ces questions-là, on essaie de confirmer certaines dates, certaines informations qui vont nous être utiles sur quel type d'événement, quel type de personnes également qu'on va inviter pour les entretiens. Donc, votre feedback va nous aider à faire en sorte que cette soirée-là soit totalement exceptionnelle. Jonathan, je me tourne vers toi. De un, comment ça se passe? Comment ça va aujourd'hui de ton côté?
Ça va super bien. Très emballé et énergisé par le fait d'être focus, enfin, dans la business, concentré sur une seule chose. Donc, on avance bien. On a travaillé très fort sur le plan stratégique qu'on va dévoiler la semaine prochaine. Donc, on est en finalisation des derniers petits détails. Puis, comme j'expliquais dans le dernier podcast, l'exercice qu'on a fait avec l'ensemble de l'équipe en mode focus group a fait une grande différence. Donc, énergisé et emballé.
Fantastique. Et pour les gens qui l'avaient pas écouté, le dernier podcast, Jonathan nous a fait l'annonce et ça a été quand même rendu public il y a quelques semaines de ça qu'il avait vendu une partie de son organisation à un collaborateur, une entreprise qui travaillait avec eux depuis un certain temps déjà pour se concentrer et uniquement mettre leurs efforts sur le développement de logiciels sur mesure, Jonathan. Donc, pour les gens qui voudront en savoir plus, vous irez écouter le dernier podcast qu'on a sorti à ce sujet-là. Et également, je pense qu'on va faire un entretien ensemble dans les prochaines semaines où tu vas nous expliquer un petit peu la réflexion derrière tous ces changements-là qu'il y a eu chez vous.
Absolument. J'aimais juste une petite particularité. On a détaché une partie de l'organisation et on a vendu cette partie-là qui était détachée. Donc, on est toujours 100% propriétaire d'OpenMind. Donc, voilà.
Un génie, ce Jonathan. Un génie du monde des affaires. Donc, on revient à notre podcast du jour. Il y avait un point, un concept, Jonathan, que je voulais parler un petit peu avec toi aujourd'hui, qui capte mon attention de plus en plus, que j'ai pas vu personne parler, mais j'aimerais vraiment amener ça à l'attention des gens que je trouve donc fascinant. Et pourquoi je l'amène à ton attention, c'est que je pense que de plus en plus, je me retrouve dans cette réalité, dans ce mouvement de pensée-là un petit peu entrepreneurial. Et je t'explique le concept. Pendant plusieurs années, on s'est souvent fait dire en tant qu'entrepreneur qu'on bâtit une entreprise, on essaie de l'amener à une masse critique assez importante, qu'elle génère de la profitabilité, qu'elle soit capable de gagner des parts de marché. Et ultimement, la fin logique souvent à ces entreprises-là est une vente. Une vente d'entreprise parce qu'on va être capable de toucher peut-être 5 à 10 fois les profits que l'organisation fait. On sait également qu'il y a certaines lignes d'affaires qu'on va être capable de toucher des multiples similaires, mais orientées au niveau des revenus, je pense ici au niveau des entreprises technologiques. Et ça, ça a été vraiment un courant de pensée très, très populaire, je dirais, depuis 5 à 10 ans, parce qu'il y a des énormes sorties qui se sont déroulées dans les différentes entreprises. Et ça, je pense que c'est un concept qui était vraiment excitant et parlait à beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire partir une entreprise, la rendre assez grande, la vendre par la suite. Et si on est encore en amour avec le processus, on recommence l'exercice. Maintenant, il y a un concept qui a capté un petit peu plus mon attention récemment et je pense que c'est surtout arrivé suite à plusieurs discussions que j'ai eues sur le podcast avec des entrepreneurs à succès. C'est l'idée, et le terme que je vais utiliser ici, je sais même pas si c'est un concept, mais c'est l'idée du long-term founder. Donc, essentiellement, un entrepreneur, un fondateur d'entreprise qui bâtit une organisation et qui la traîne et qui l'amène à différentes phases de croissance pendant longtemps. Si on prend l'exemple à l'extrême des entreprises que tout le monde connaît, on n'a qu'à penser à les méthodes de ce monde. C'est encore Mark Zuckerberg aujourd'hui qui dirige l'organisation après l'avoir fondée en 2004. On peut penser à Jeff Bezos, qui, oui, n'est plus président de l'organisation en 2021, mais il a lancé Amazon en 94, si ma mémoire est bonne, et a quitté l'organisation en 2021. Il est toujours président du conseil d'administration. On pourrait appeler ça un long-term founder. C'est quand même 27 ans de ta vie que tu as mis là-dessus. Récemment, j'ai eu Stéphane Garneau sur le podcast de Micrologique. Si d'ailleurs tu n'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter. Le podcast est sorti le 4 mars. Stéphane, quel homme d'affaires incroyable, a acheté Micrologique au début des années à la fin des années 2000, vers 2009, pour 70 000 $. Essentiellement, il a racheté un fonds de commerce, une coquille d'entreprise qui a complètement pivoté. Puis en l'espace d'un an, il a passé l'organisation de 5 à 25 millions. Ils sont rendus à plus de 200 millions en revenus. Ils ont lancé un projet cloud, le projet Cirrus en 2014, qui lui, à lui seul, d'ici à peu près 24 mois, va faire à peu près 100 millions de revenus récurrents. C'est exceptionnel. Et encore une fois, 100% autofinancé, dirige l'organisation, contrôle toute son équité et continue à croître année après année. Et ça, tu sais quoi? Je voulais en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est pas assez mis en lumière. On met souvent en lumière ces fameuses sorties-là, mais combien de dirigeants d'entreprises ont gardé leur entreprise excessivement longtemps? Et c'est ces entreprises-là qui changent le monde et qui font vraiment une énorme différence. Souvent, une sortie d'entreprise se fait absorber et quelques années plus tard, l'entreprise n'existe plus. Elle est absorbée à l'intérieur de la grande entreprise. Mais ça, on pense encore, on pousse à l'extrême des couche-tard de ce monde ou est-ce que t'as littéralement le fondateur, le propriétaire qui est resté tout le long? François Roberge de La Vie en Rose qui a racheté l'entreprise juste avant le début des années 2000 et qui encore aujourd'hui, je l'entendais à Radio-Canada il y a à peu près 2 semaines de ça, qui nous parlait de son expansion aux États-Unis. Ça fait 25-30 ans qu'il est à la direction de son entreprise. Et la raison pourquoi j'amène ça, c'est que je pense que, un, c'est important de mettre ça en lumière et deux, c'est important de comprendre qu'il y a un chemin différent qui peut être emprunté que la vente de son entreprise. C'est-à-dire que on peut diriger son entreprise longtemps. Et même quand on l'a dirigé pendant 25 à 30 ans, on peut la vendre aussi ensuite. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que l'idée de simplement lancer, bâtir, vendre est une idée qui peut être empruntée. Mais l'idée de littéralement garder son entreprise longtemps, avoir une vision long terme, peut être mixée avec hyper-croissance. Et c'est souvent ça qui a été un petit peu mis de côté, c'est qu'on se disait, ultimement, si tu gardes ton entreprise pendant très longtemps, c'est un petit peu le fameux concept du lifestyle business. Ces entrepreneurs, là, oui, ont un beau lifestyle, mais ils font de la très, très grosse croissance de 40, 50, 60% année après année, là. Et c'est eux souvent, dans les gens que j'ai interviewés, qui ont littéralement bâti les plus grandes organisations. Et j'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Et je pense que ça vaut la peine de mettre ça de l'avant, de l'expliquer à notre audience qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent être intégrés à la direction des entreprises. Et l'idée du long-term founder est souvent une qui n'est pas assez mise de l'avant.
J'ai la perception que l'achat ou la vente d'une entreprise est un événement facilement médiatisable sur lequel on peut donner de la reconnaissance puis créer un effet wow. Donc, les entrepreneurs en série qui achètent, qui vendent rapidement, souvent ont plus d'exposition et ont plus de reconnaissance qui est mis derrière tout ça. Donc, quand quelqu'un est longtemps dans la même entreprise puis qu'il avance, il y a moins d'attention médiatique, il y a moins d'effet wow, il y a moins de lustre derrière l'image, derrière tout ça. Fait que je pense que c'est un petit peu cette raison-là qui fait que dans les dernières années, l'entrepreneur en série a été plus valorisé que l'entrepreneur qui est là pour du long terme. La réalité, c'est que si on est dans le bon bateau à bonne place puis qu'on peut l'amener encore plus loin, il y a pas nécessairement de nécessité à faire des stunts marketing ou des ventes achats en série, là.
Et c'est le plus gros levier. Une entreprise qui a été capable de se tenir droit, de faire de la belle croissance, qui a 20 ans derrière la cravate, a tellement plus de potentiel qu'une entreprise qui vient tout juste de débuter à cause de l'expérience, à cause de la visibilité de l'entreprise, à cause de la réputation, à cause de tout ce qui vient autour des années que tu accumules derrière la cravate. Et ça, je pense que tu peux en témoigner, je peux en témoigner, d'autres personnes qui peuvent en témoigner, qui ont une entreprise depuis plus de 10 ans. La 11e, la 12e année, pas qu'elle est plus facile que les anciennes, mais tu as beaucoup plus de leviers avec quoi que tu peux travailler, que ce soit pour aller signer des nouveaux clients, pour aller chercher des nouveaux employés, pour faire des acquisitions, pour faire des ventes d'une partie de son entreprise, peu importe c'est quoi le mécanisme. Il y a tellement de choses qui s'intègrent là-dessus et j'ose même pas imaginer qu'est-ce que 20 ans peut te donner derrière une entreprise et qu'est-ce que 30 ans peut te donner derrière avec une entreprise. Et pendant ces années-là, bien entendu, si tu la gères bien, tu peux faire de la profitabilité, tu peux grandir. Il y a plein de belles choses qu'on peut faire et je pense que c'est un point qui est pas assez mis de l'avant et qui est oublié. Donc, et tu vois, ça m'est frappé cette semaine quand j'ai terminé l'entretien avec Stéphane, ou plutôt quand je l'ai mis en ligne puis je l'ai réécouté pour voir si tout était bon. Et là, je regardais beaucoup d'entretiens que j'ai eu récemment. J'en revenais pas combien j'avais eu des fondateurs exceptionnels, des présidents d'entreprises exceptionnels qui tiennent leur entreprise depuis 20, 30 ans et qui font de la croissance de 40-50% année après année, des fois plus. C'est pas exceptionnel un peu tout ça.
Puis je pense qu'il y a une composante aussi qu'il faut faire attention. C'est une entreprise qui est à capital fermé versus une compagnie à capital ouvert. Je pense qu'il va y avoir une différence à travers le temps dans la croissance puis différents stades. Une entreprise qui est privatisée, souvent il va y avoir des gens de la famille qui vont être la deuxième ou la troisième génération de l'entreprise. Et souvent, on entend que la première génération travaille comme des fous pour bâtir l'entreprise à un certain niveau. La deuxième va amener la structure, la technologie, l'innovation pour l'amener à un autre niveau. Et la troisième génération va détruire tout ce qui a été fait les deux générations précédentes.
Ça a été vu souvent, malheureusement, ouais.
Alors que si on compare à un Alain Bouchard, que lui, il était plus du côté public, que c'est pas nécessairement ses enfants ou c'est sa famille qui a repris, en tout cas, de manière explicite, les rênes de l'organisation. Il a toujours été avec la meilleure personne possible pour aller à la prochaine étape, un Brian Hannasch de ce monde. Et on voit le résultat qu'une croissance et le facteur exponentiel est encore là ou linéaire vers le haut est encore là. Donc, je pense qu'il y a un aspect qu'il faut faire attention aussi bien entre sûr. Le privé puis le public là-dedans. Il peut avoir après un 20, 30, 40, 50 ans un déclin peut-être d'une organisation s'il n'y a pas cet aspect-là. Si on met l'aspect familial d'abord et avant tout versus le bien de l'organisation pour la croissance.
Et ça, tu sais quoi? Je pense que ça serait un autre podcast totalement, la reprise dans les entreprises familiales, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui n'est pas tout le temps facile. Je l'ai vu très souvent, encore une fois, avec des entretiens sur le podcast. Mais je pense que moi, le point que je veux surtout amener à l'audience aujourd'hui, c'est que c'est correct de garder une entreprise pendant 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans même, et de l'amener à un autre niveau. C'est correct de bâtir une entreprise et de la vendre après 3, 4 ans. Il n'y a pas un chemin qui est mieux que l'autre, mais je pense que les deux chemins sont excessivement intéressants à analyser et de pas simplement se dire c'est un choix ou c'est l'autre choix. Vraiment, en ayant fait, tu vois, on est rendu à plus de 300 épisodes sur le podcast, donc minimalement 200 d'entre eux ont été faits avec des entrepreneurs différents. Je le vois, il y a vraiment ces entrepreneurs-là qui soit prennent un chemin ou l'autre, mais ont autant de succès, que ce soit financier, que ce soit dans le changement qu'ils sont capables de faire sur la planète. Donc, ne pas négliger ça dans votre parcours entrepreneurial. Donc, tu vois, c'est un petit point que je voulais amener à l'audience aujourd'hui. Je sais que toi, tu avais peut-être d'autres points que tu voulais amener, qu'on pourrait parler des nouvelles.
Absolument. Je fais peut-être juste avant les nouvelles un petit bout de chemin de plus sur le sujet. Ça fait deux personnes par hasard qui me sollicitent dans les deux dernières semaines pour aller souper. Deux personnes qui pensent se lancer en affaires depuis longtemps, des jeunes dans la trentaine. Et les deux, ça a été le même constat. T'sais, je leur ai dit, parfait pour te lancer en affaires, mais pourquoi pas acheter une entreprise qui a déjà une certaine vélocité? Ouais. Pourquoi pas déjà sauter dans un train qui est en marche, qui a une certaine profitabilité, qui a peut-être pas de relève? Et s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui qui se pensent se lancer en affaires, ne négligez pas la partie peut-être de reprendre une entreprise existante qui a peut-être pas de relève. Il y a beaucoup d'entreprises qui auront pas de relève dans les prochaines années. Je pense que les chiffres étaient au-delà de 60 000 entreprises qui n'ont pas encore de plan de de repreneurs. Et il y a un programme qui est sorti dans les dernières journées en lien avec l'École d'entrepreneurship de Beauce pour former 1000 repreneurs et cédants d'entreprise. Donc, négligez pas cette partie-là aussi, peut-être de prendre place dans un wagon qui est déjà en pleine allure vers une belle direction, puis d'apporter votre couleur par la suite ou vos forces pour venir couvrir des zones qui étaient peut-être pas exploitées dans cette entreprise-là. Et c'est ce que je challengeais avec les deux personnes avec qui j'ai été prendre un repas. C'est, je pense, me recommencer aujourd'hui. J'essaierai d'aller un petit peu en mode raccourci, de prendre déjà une entreprise qui est en vélocité, parce que être un fondateur d'une entreprise, partir de zéro, c'est un chemin de croix qui est très difficile à passer à travers. Et le ratio de risque versus bénéfice est disproportionné versus de prendre une entreprise qui est peut-être déjà en vélocité, qui a pas de successeur à la tête de cette entreprise-là. Donc, à réfléchir derrière tout ça.
Ben, si les statistiques le disent, hein, c'est quoi, 85% des entreprises font pas le cap des 5 ans. Ben, une entreprise qui a déjà fait le cap des 5 ans que tu peux racheter a quand même plus de chances de survivre aux 5 prochaines années qu'une entreprise que tu vas simplement lancer. Donc, oui, effectivement, j'abonde dans le même sens que toi ici aujourd'hui. J'aurais à me relancer aujourd'hui. Je crois que ce serait beaucoup plus dans un mode d'acquisition, mais bon. Faut quand même bien analyser la structure du capital, mais habituellement, quand on a un bon plan d'affaires, les banques peuvent nous aider là-dedans.
Absolument. En rafale, quelques nouvelles. Anthropic, qui est un compétiteur à OpenAI au niveau de l'intelligence artificielle, vient de lancer son modèle Claude, la version 3. Et selon, à date, les benchmarks, les bancs de test, ça serait plus performant que GPT-4. Donc, on voit encore là, il y a un nouveau joueur dans le marché qui est en train de s'imposer, ou du moins de tenir tête à OpenAI. Et comme on a eu une discussion hors d'onde, Antoine t'exprimait que c'est des gens d'OpenAI qui n'aimaient pas la philosophie d'OpenAI, qui pourrait être aujourd'hui renommée Close AI au lieu d'OpenAI. Donc, ils ont décidé de partir en croisade et de développer leur propre modèle d'intelligence artificielle. Donc, ça va être intéressant à regarder et à tester. Compétiteur également à Gemini de Google au niveau de la quantité de contexte qui peut être transmis au modèle. Donc, ça va être intéressant de voir, là, il y a trois joueurs dans le marché qui bougent beaucoup et à suivre. Il y a Magic AI aussi qui commence à pousser beaucoup, qui ont levé beaucoup de financement dernièrement. Donc, il y a quatre gros joueurs là, à regarder dans le marché devant nous et ça va probablement apporter beaucoup d'innovation encore dans les prochains trimestres.
Et je pense que ce qui est important aussi de mentionner, c'est que toutes ces entreprises-là, on pense que c'est des startups indépendantes. Microsoft a mis quoi? Microsoft. 10 milliards dans OpenAI puis il possède 49%. Amazon a mis 4 milliards dans Anthropic. Donc, c'est juste pour dire qu'au final, ce sont des startups qui sont indépendantes, 100%, utilisons les bons termes ici, qui ont bâti leur réelle infrastructure, mais qui au final sont continuellement appuyés par des énormes joueurs pour leur ronde de financement. Donc, il y a toujours un gros joueur tech derrière ces startups-là. Anthropic, d'ailleurs, qui, effectivement, ça a été dit, aurait peut-être un AI encore plus puissant que ce qu'OpenAI a. 850 millions de forecasts de revenus pour 2024. 18 milliards de valorisation selon leur dernière ronde de financement qu'ils ont fait en janvier 2024 aussi. Tu sais, c'est pour dire, je pense que OpenAI dans sa dernière valorisation, c'était 80 milliards. Si ma mémoire est bonne, 18 milliards pour Anthropic. Ces entreprises-là prennent une valeur incroyable à cause, je pense, d'un marché qui est très, très chaud en ce moment. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant à suivre. Il n'y a pas un seul joueur dans la course, au contraire. Et je pense que c'est encore excessivement tôt à savoir qui va gagner.
Et la compagnie qui produit du matériel sur laquelle la majorité des modèles fonctionnent, Nvidia, vient de tomber la troisième capitalisation boursière. Ça, c'est vraiment impressionnant de voir l'ascension. J'ai vu des graphiques de compétition entre Intel et Nvidia. Allez voir ça dans les 10 dernières années. Ça n'a aucun sens. Et le CEO est sorti il y a 2 jours comme quoi que selon sa perception à lui, d'ici 5 ans, l'intelligence artificielle va battre sur tous les domaines l'humain.
Ouais.
Et ce que je voulais mentionner, c'est que souvent les gens, on se pose des questions, comment intégrer ça dans nos modèles d'affaires et surtout est-ce qu'on va être disrupt par l'intelligence artificielle. Moi, mon discours reste le même. C'est pas l'intelligence artificielle qui va vous tasser du marché, c'est un compétiteur qui va mieux l'utiliser que vous. Donc, c'est juste une question d'utilisation. Donc, ouvrez déjà vos oreilles puis vos yeux par rapport à ça. Il commence à avoir une force qu'on voit apparaître dans les organisations qui est un Chief AI Officer, qui est une personne qui est dédiée, pas nécessairement pour comprendre tout le côté technique de l'intelligence artificielle, mais qui est plutôt là pour vous souffler dans l'oreille d'utiliser un modèle X pour une utilisation Y et qui est un peu l'évangéliste de faire avancer puis arriver les choses dans vos organisations. Donc, Chief AI Officer, retenez ça. Ça va être probablement à la base dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, à intégrer dans vos organisations.
Un webmaster 2.0, c'est un peu ce qui se déroule. C'est-à-dire qu'on avait des webmasters avec l'arrivée de l'Internet il y a plusieurs années. Maintenant, c'est un terme Chief AI Officer. Et peut-être revenir à NVIDIA qui est assez intéressant ici. On parlait de long-term founder Jason Wang, fondé l'entreprise en 1993. C'est une entreprise qui est sur le marché public depuis énormément d'années, mais qui n'avait pas nécessairement encore trouvé on pourrait dire product market fit, malgré que l'organisation valait plusieurs milliards de dollars, là, paradoxalement. Mais juste sortir des chiffres, OK. 22 milliards de dollars de revenus qui ont fait sur le Q4 2023. 12,28 milliards de bénéfices nets. Une marge de bénéfices nets à 55%, Jonathan. 55% de marge de bénéfices nets. On parle d'une organisation publique. Les revenus sont en hausse de 265% sur le trimestre, le Q4 de l'année précédente, de 2022. Donc, oui, eux, ils vivent la croissance de l'intelligence artificielle comme personne parce qu'ils sont les seuls. Il y a d'autres joueurs un peu qui s'intègrent, mais qui sont tellement loin. Ça va prendre énormément de temps avant qu'ils se fassent prendre des parts de marché. Donc, NVIDIA pourrait devenir, dans quelques années, peut-être l'entreprise avec la plus forte valorisation au monde, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, s'ils sont l'unique joueur vraiment, ou plutôt le joueur qui reste continuellement le leader de tête dans cette catégorie-là un peu. Par exemple, ce serait quasiment un peu ce qui s'est passé avec Google, qui ont pris le search et qui en ont fait un monopoly à plus de 90%. Il pourrait se dérouler quelque chose de similaire avec NVIDIA, là.
Et il faut surveiller OpenAI encore là, parce que Sam Altman, il y a des rumeurs qu'il essaie de lever 7 trilliards de financement justement pour être capable de développer une partie matérielle ou développement de l'équipement. C'est des sommes qui sont complètement illogiques. C'est du jamais vu, mais apparemment qu'il serait sur le projet à l'heure actuelle pour avancer là-dessus, pour venir compétitionner NVIDIA, parce qu'il voit que l'équipement est extrêmement important pour tout compagnie qui produit des modèles d'intelligence artificielle ou qui vont l'utiliser par la suite. Je termine avec deux petites nouvelles, une outrageuse et une un peu plus drôle. La première, c'est le président de la compagnie Norfolk Southern, qui est une compagnie de rails aux États-Unis, a reçu 37% d'augmentation salariale, alors que dans cette année-là, il y a eu un train qui a déraillé qui a coûté 1,1 milliard à l'organisation. Donc, c'est maintenant le président qui a eu la plus grande augmentation à l'opposé de la plus grande faute durant son règne dans une année. C'est complètement illogique. Ça l'a baissé les profits de l'organisation de 50% cet événement-là. Et il a quand même reçu 37% d'augmentation pour gagner au-delà de 10 millions de dollars pour l'année qui viennent de se terminer. Donc, complètement illogique. Et encore une fois, les rémunérations des CEO, des fois, on se dit ça ne fait pas de sens.
Ça fait pas
et
ça.
Le déraillement a été un désastre écologique derrière tout ça. Donc, je comprends pas la logique du board derrière tout ça, mais voilà, petite nouvelle qui est en train de faire le tour du monde au niveau de CNN. Et dernière nouvelle pour faire rire un peu, une dame en Irlande a perdu 1 million $ en cours. Elle avait eu un accident d'auto. Elle réclamait 1 million $ pour incapacité à aller travailler. Et la cour a réussi à trouver une photo d'elle. Et tiens-toi bien, Antoine, la photo, c'est quoi? Elle a participé 6 mois après son accident à une compétition de lancer d'arbres de Noël. Et elle a gagné.
D'arbres de Noël, OK.
Oui, et là, on va mettre le lien dans les notes de l'épisode. C'est complètement illogique. On la voit lancer un gros arbre de Noël de 5 pieds de haut. Et c'est arrivé en cours, cette photo-là. Et elle a perdu 1 million $ à cause de ça. Le juge a dit ça fait absolument aucun sens. Donc, à suivre ou à regarder si vous avez des gens dans votre entourage qui arrivent des accidents et qui font des réclamations. Faites attention à ce que vous faites sur les médias sociaux si vous êtes tenté de dire des menteries. Donc voilà, son subterfuge a été dévoilé au grand public. C'est tout pour cette semaine, Antoine.
Jonathan, j'adore les nouvelles. Des fois, elles me font rire. Des fois, je me pose des questions comment que les gens réfléchissent à leurs actions. Mais bon, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Je te remercie encore une fois pour les gens qui nous écoutent. Allez voir peut-être également, je le répète, dans les notes de l'épisode, on a un petit document à remplir pour l'événement qu'on va faire au mois de mai prochain. L'annonce officielle de la date arrive sous peu. Jonathan, je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode d'Hypercroissance.